Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Makot, page 4, Daf Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
Chaser Kortov, moins une mesure d'un Kortov, chez Nafal et Tochan Kortov Yain, dans lequel est tombée une mesure d'un Kortov de vin. Et donc ici, en fait, nous avons deux lougs et quelques d'eau et un Kortov de vin. Ou Marien que Marien, et leur apparence à l'apparence du vin. Venaflou la migvé, et ce liquide est tombé dans un migvé, dans lequel il n'y avait pas 40 CA d'eau non puisée. Alors l'opaslou, ils ne l'ont pas rendu inapte. Vechen, et de même, Shalosh lougim maim, trois lougs d'eau. Chaser Kortov, moins un Kortov, c'est une mesure. Shenafal letochan Kortov chalav, dans lequel est tombé un Kortov de lait. Donc, ce qui va se passer, c'est que Umareen kemare amain. Et donc, leur apparence est l'apparence de l'eau. C'est-à-dire, lorsqu'un Kortov de vin tombe dans de l'eau, ça donne immédiatement, étant donné que c'est du rouge, ça donne immédiatement l'apparence du vin. Mais si c'est un Kortov de lait, étant donné que c'est blanc, alors ça garde l'apparence de l'eau. Et donc, maintenant, nous avons ici trois Kortov qui ont l'apparence de l'eau. Venaflou la mikvé, ils sont tombés dans le mikvé. L'eau passe le où, ils ne l'ont pas rendu inapte. Car ici, en fait, il n'y a pas, et dans le premier cas, et dans le second cas, il n'y a pas la mesure de trois lougs d'eau. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, et Rabbi Yochanan ben Nouri dit, « Akol olech achar amare. » Tout va d'après l'apparence. Et donc, dans le premier cas, étant donné que ça a l'apparence du vin, alors en effet, ça n'a pas rendu inapte le mikvé. Et même s'il y avait trois lougs d'eau, pas trois lougs d'eau moins un kortov, mais trois lougs d'eau complets, dans lequel est tombé un kortov de vin, et l'apparence de ces trois lougs d'eau et l'apparence du vin, ça ne rend pas inapte le mikvé. Par contre, dans le second cas, même qu'il n'y a pas trois lougs d'eau, étant donné que l'apparence de ces trois lougs et l'apparence de l'eau, ça rend un inapte le mikvé. Le mikvé n'est plus utilisable. Donc nous voyons que d'après les sages, nous allons d'après les mesures, est-ce qu'il y a oui trois lougs d'eau ou pas. Par contre, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, nous allons d'après l'apparence. Et donc, l'enseignement de Rav Yehuda plus haut, comme l'a expliqué Rava, suit l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri que tout va d'après l'apparence. Alors la Gemara demande, Ve'ami ba'yele ba'yele Rav, Rav Papa. Pourtant, Rav Papa avait un doute sur cette Mishnah. Comment l'expliquer? Des ba'yele Rav Papa, car Rav Papa avait un doute. Rav, qui plus haut nous a enseigné que tout suivait l'apparence. Est-ce que lui, dans cette Mishnah Tane, il enseignait Chaser Kortov Berisha? Dans le début de la Mishnah, il disait qu'il fallait lire Chaser Kortov moins un Kortov, c'est-à-dire trois logs d'eau moins un Kortov de vin dans lequel est tombé un Kortov de vin. Et dans un cas pareil, on suit l'apparence. Aval Shlosha Lugim, mais s'il y avait ici trois logs complets d'eau, les Tanakama, d'après Tanakama, passez, le mikvé est disqualifié. Car bien que l'apparence, c'est l'apparence du vin, mais étant donné qu'ici, il y a trois lougs d'eau, le mikvé est disqualifié. Vata Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan vient dire, Akol olech achar amare. Tout suit l'apparence. Et donc, s'il y a une apparence de vin, même s'il y a plus de trois lougs d'eau, ça ne disqualifie pas le mikvé. Verav omer Rabbi Yochanan ben Nouri. Et donc, d'après ça, Rav suit l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri. Odilma, ou peut-être, on peut donner une autre explication à la Mishnah. Rav lotane chaser kortov bereshe. Rav n'enseignait pas moins un kortov dans les débuts de la Mishnah. C'est-à-dire, il enseignait qu'il y avait trois lougim d'eau complets dans lequel est tombé un kortov de vin. Et l'apparence de cette eau était l'apparence du vin. Et d'après Tanakama, ça n'a pas disqualifié le mikvé car on suit l'apparence. Et par contre, s'il y a trois logs d'eau moins un kortov et dans lequel est tombé un kortov de lait, alors dans un cas pareil, on aurait dû dire si on suit l'apparence que ça disqualifie le mikvé. Malgré cela, les sages nous disent que ça ne disqualifie pas le mikvé car il n'y a pas la mesure minimale de trois logs d'eau. C'est-à-dire que d'après Tanakama, d'après les sages, le premier Tana de la Mishnah, alors il faut les deux conditions, et qu'il y ait une mesure de trois logs d'eau, et que cette mesure ait l'apparence de l'eau. Et Rabbi Yochanan ben Nouri, qui palait assez fort au dépalait. Et Rabbi Yochanan, lorsqu'il est en discussion avec les sages, avec Tanakama, c'est sur la fin qu'il est en discussion. Car sur la fin, les sages ont dit que bien que ça ait l'apparence de l'eau, malgré cela, ça ne disqualifie pas le mikvé, car il n'y a pas la trois mesures de trois logs d'eau. Et Rabbi Yochanan ben Nouri vient et nous dit, bien qu'il n'y ait pas la mesure, mais tout suit l'apparence, et étant donné qu'ici il y a une apparence d'une mesure de trois logs d'eau, ça disqualifie le mikvé. Et donc d'après ça, Rav d'Amar qui dit vrai col, Rav a parlé suivant l'avis de tout le monde, car et d'après les sages, et d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, tout dépend de l'apparence. Donc nous voyons que Rav Papa avait un doute comment expliquer cette Mishnah? Donc comment pouvons-nous dire que Rava dit que Rav, qui a dit que tout suit l'apparence, tout va d'après l'apparence, pense comme Rabbi Yochanan ben Uri? Rav Papa a eu un doute, est-ce que Rav pense comme Rabbi Yochanan ben Uri ou est-ce qu'il pense comme tout le monde? Alors Gemara répond, Rav Papa avait un doute là-dessus, les Rav Apshitale. Par contre, pour Rava, c'était évident que Rav, lui, enseignait cette braïta en introduisant les mots au début de la Mishnah, chaser kortov, moins un kortov, et donc, d'après Tanakama, seulement s'il y avait trois logs moins un kortov, alors à ce moment-là, le mikvé n'est pas disqualifié. Mais s'il n'y avait pas trois logs moins un kortov, il y avait trois logs complets, bien que ces trois logs d'or ont l'apparence du vin, le mikvé est disqualifié, car les sages ne vont pas d'après l'apparence, seulement Rabbi Yochanan ben Uri, et donc Rav suit l'opinion de Rabbi Yochanan ben Uri. Et c'est pour cela que Rav a dit que Rav pense que d'après Rabbi Yochanan ben Uri, et pas d'après les sages. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef a dit, Loshmi ali ashmatata, je n'ai pas entendu cet enseignement. Et il faut préciser que Rabbi Yosef, au cours de sa vie, est tombé malade et a oublié toute son étude. Donc Rabbi Yosef a dit, je n'ai pas entendu cet enseignement. C'est-à-dire, en fait, il ne s'en rappelait pas. Amar le Abaye, Abaye lui a dit, Atamart le Nialan, mais c'est toi qui me l'as dit. C'est-à-dire, c'est toi qui me l'as enseigné. Mais Achi Amar Nialan, et ainsi tu me l'as enseigné. Et nous parlons de la Mishnah, de la discussion entre Rabbanan, Tanakama et Rabbi Yochanan ben Uri. Et nous voulons savoir, Rav suivit l'opinion de qui? Et alors il a dit, Rabbaye lui dit à Rabbi Yosef, c'est ainsi que tu nous l'as enseigné. De Rav l'otanechosek kortov barashi. Que Rav n'enseignait pas au début de cette Mishnah qu'il était écrit moins un kortov. C'est-à-dire il y a trois, il enseignait qu'il y avait ici trois lougs complets d'eau dans lequel est tombé un kortov de vin. Et l'apparence de ces trois lougs et l'apparence du vin. Et donc puisque c'est comme ça, étant donné qu'ils ont l'apparence du vin, ça ne disqualifie pas les mikvé, car tout suivant l'apparence. Mais Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan a sévé palik. C'est sur la fin de la Mishnah qu'il est en discussion avec les sages. Car sur la fin de la Mishnah, les sages ont dit que trois logs d'eau moins un kortov et dans lequel est tombé un kortov de lait, bien que l'apparence est l'apparence de l'eau, malgré cela, étant donné qu'il n'y a pas la mesure minimale de trois logs, ça ne disqualifie pas le mikvé. Et Rabbi Yochanan dit que tout suivant l'apparence, et tout suit l'apparence, et donc dans un cas pareil, ça disqualifie, oui, le mikvé. Donc, et que ce soit les sages, Tanakama, le premier Tana de la Mishnah, ou que ce soit Rabbi Yochanan ben Uri, tout le monde pense que suit l'apparence, et on suit l'apparence. Et donc, Vérav, Damar, Kedivrakol. Et Rav, lorsqu'il a dit qu'on suit l'apparence, il pense comme tout le monde. Maintenant, nous revenons sur d'autres enseignements de Rav Yehuda au nom de Rav. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda a dit au nom de Rav. Chavit melea maim, un tonneau plein d'eau. Shinafla le yam agadol, qui est tombé dans la grande mer. L'habitude est d'expliquer que la grande mer, c'est la mer Méditerranée. A Tovel Cham, alors celui qui s'immerge là-bas pour se purifier de son impureté, à l'endroit où le tonneau est tombé, lo altalot vila, son immersion n'est pas valable, c'est-à-dire, il ne s'est pas purifié. Pourquoi? On craint les shlosha lugim shelo yu bimkom echad. On craint qu'il y ait trois lugs d'eau puisée qui soient à un même endroit. Et lui, il s'est trempé exactement à cet endroit où il y avait les trois lugs d'eau puisée. Et donc, son immersion n'est pas valable. Et donc, s'il veut s'immerger pour se purifier dans le mikvé, il devra s'immerger un peu plus loin que l'endroit où le tonneau est tombé. Vedavka le Yamagadol, et cette loi-là, c'est seulement dans la grande mer, c'est-à-dire dans la mer Méditerranée, des kaime, qui est fixe. C'est-à-dire, l'eau en général ne bouge pas à droite et à gauche. C'est vrai qu'il y a des vagues, mais l'eau reste à peu près au même endroit. Aval, Nehara, par contre, dans un fleuve, Balma, un simple fleuve, l'eau, la loi n'est pas comme ça, car un fleuve suit toujours son cours et l'eau va toujours vers le bas, et c'est sûr qu'un tonneau d'eau qui est tombé à tel endroit du fleuve, c'est sûr que deux minutes après, il n'est plus là-bas, étant donné que le fleuve suit toujours son cours. Tanina Merchi, nous avons enseigné aussi comme ça dans une braïta, Chavit Melea Yayin, Shinafla Liyam Agadol, un tonneau plein de vin qui est tombé dans la grande mer, c'est-à-dire dans la mer Méditerranée, Atovel Sham, Lo Altalot Vila, celui qui s'immerge là-bas, son immersion n'est pas considérée, c'est-à-dire elle ne l'a pas purifié. Pourquoi? On craint qu'il y ait trois lougs d'eau puisée qui disqualifient donc un mikvé, qui soit à un seul et même endroit. Vechen, et de même, que Kar Shel Truma, un pain de Truma, chez Nafal Sham, qui est tombé là-bas après qu'une telle personne s'y soit trempée, Tamé, le pain de Truma est devenu impur et donc les Kohanim n'ont pas le droit de le manger. Alors, on me demande, Maï Vechen, qu'est-ce que c'est de, ce de plus? C'est sûr que si la personne qui s'est immergée ne s'est pas purifiée, donc étant donné que lui-même est impur, alors il a rendu impur l'eau. Et donc automatiquement, si un pain de trouma tombe dans ce même endroit, alors le pain de trouma est devenu impur. Alors qu'est-ce que la Braïta vient nous apprendre? Alors Gmano nous dit, Maoud et Tema, j'aurais pu penser, Atamuke Gavra Chazaki, j'aurais pu penser qu'on laisse l'homme dans l'état dans lequel il était. Et donc, c'est-à-dire, la raison pour laquelle l'homme est impur, c'est car on le laisse dans l'état dans lequel il était. C'est-à-dire, lui, il était impur, il s'est purifié, il s'est immergé, et on a un doute, est-ce qu'il s'est immergé et s'est purifié, ou peut-être qu'il s'est immergé dans trois lougs d'eau puisée, et ne s'est donc pas purifié, alors étant donné qu'on a un doute, on le laisse dans l'état dans lequel il était, c'est-à-dire, on dit qu'on le laisse impur. Acha, et ici, uke truma chazaka, on laisse la truma dans l'état dans lequel elle était. C'est-à-dire, on a un doute. Est-ce que la truma est devenue impure, car la personne qui s'est immergée avant que la truma tombe dans cette eau, alors lui-même était impur et a impurifié l'eau? Ou peut-être que non, la personne, lui, s'est purifiée dans cette eau, car il n'y avait pas trois lougs d'eau puisée, et donc c'était un mikvé tout à fait valable, et donc il s'est purifié. Et donc la truma, dans un cas pareil, n'est pas impure. Donc nous avons un doute, est-ce que la truma est devenue pure, est restée pure, ou c'est impurifié? Dans un cas pareil, on dit on la laisse dans l'état dans lequel elle était, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant elle était pure, on la garde pure. Kamashmanan, c'est ce que ça vient nous apprendre, que nous ne disons pas une chose pareille, et nous sommes quasiment certains, hein, que nous considérons d'une façon quasiment certaine, que la personne qui s'est immergée dans trois lougs d'eau puisée, et donc a rendu impure cette eau, et donc lorsque la trouma tombe à cet endroit, la trouma elle-même devient impure. La Mishnah continue à nous rapporter des cas de témoins homémis. Mais dit Manu Beish Ploni Shikhav le Chavero Mataim Zuz. Nous témoignons sur une telle personne qu'il doit à son ami une somme de 212. Venim Tzu Zomemim, et ces deux témoins se sont trouvés Zomemim, donc la punition qu'ils ont voulu lui infliger, c'est de payer 212, alors c'est sûr qu'ils devront payer ces 212. Mais la Mishnah nous dit quelque chose de nouveau. Lokin ou Meshalmim, pas seulement qu'ils devront payer, ils seront aussi punis d'une peine de flagellation. Shelo Hashem Amevian Lidemakot, car ce n'est pas la raison qui les entraîne à recevoir une peine de flagellation, c'est-à-dire, ce n'est pas le verset, l'interdit qu'ils ont transgressé, qui les entraîne à recevoir une peine de flagellation, mais Vian Lidemakot, ce n'est pas le même interdit qui les entraîne à payer. Car ils ont transgressé un premier interdit de porter un faux témoignage, et pour cela, ils reçoivent une peine de flagellation, et secondement, étant donné qu'ils ont... Ils sont devenus homémimes, alors ils seront la punition qu'ils ont voulu infliger. D'ivré Rameir, ce sont là les paroles de Rameir. Bechachamim, Orim, et les sages nous disent, Kol Ameshalem en Oloke, quiconque paye n'est pas puni de peine de flagellation. Et nous allons apprendre dans la Gemara pour quelles raisons les sages nous disent qu'on ne peut leur infliger qu'une seule punition. Maintenant, un autre cas. Meidi Manu Bishploni Shuchav Malkot Arbaim. Nous témoignons sur une telle personne qu'il est passible d'une peine de flagellation de 40 coups. Et ces deux témoins se sont trouvés zomémim. Alors dans un cas pareil, lokin shmonim, ils recevront une peine de flagellation de 80 coups. 40 premiers coups, mishum lotane beracha et chaker, car ils ont transgressé l'interdit tu ne porteras pas sur ton prochain un faux témoignage. Et donc étant donné qu'ils ont transgressé cet interdit, ils recevront 40 coups. Ou mishum vasitem loka sherzaman, et à cause de la punition, vous lui ferez ce qu'il a eu l'intention de faire à son ami, ça nous parle des témoins homémimes, qu'ils reçoivent la punition qu'ils ont voulu infliger. Donc, ils ont voulu infliger une punition de 40 coups, ils devront recevoir aussi 40 coups. Donc, ça fait en tout 80 coups. D'ivrei Rameir, ce sont là les paroles de Rameir. Bechachamim, oui, mais les sages nous disent, en lokin el arbaim, ils ne recevront qu'une seule punition de 40 coups. Et nous allons expliquer dans la Gemara pour quelles raisons les sages pensent qu'ils ne recevront qu'une seule punition et non pas deux punitions, comme l'avis de Rameir.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Le shiur de Daf Dalet. Nous sommes Daf Dalet Amud Bet, première ligne. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il y a une discussion entre Rabbanan et Rab Meir. Lorsque deux témoins ont porté un témoignage et se sont trouvés homémim, combien de punitions recevront-ils? D'après Rab Meir, ils recevront deux punitions. Une première punition pour avoir transgressé l'interdit Lotane Beracha et Chaker, tu ne porteras pas un faux témoignage sur ton ami, et donc ils recevront pour cela une peine de flagellation. Et la deuxième punition, car ce sont des témoins homémimes, et donc ils recevront la punition qu'ils ont voulu infliger à la personne sur laquelle ils ont témoigné. Par contre, d'après les sages, ils ne recevront qu'une seule punition, seulement la punition qu'ils ont voulu infliger à la personne sur laquelle ils ont témoigné. Alors, l'Agma explique maintenant la raison de la discussion entre les sages et Remeir. Et l'Agma nous dit, « Bishlam alei Rabbanan, je peux comprendre d'après les sages qu'Ederisha Toktiv. Il est écrit dans le verset qu'il sera puni pour son délit. Et donc de là, nous apprenons, « Mishum risha achat ata mechaivo » qu'on le punit pour un délit, « Vei ata mechaivo mishum shter ishuyot » mais tu ne le punis pas pour deux délits. C'est-à-dire, si une personne a fait en même temps deux délits, il ne recevra qu'une seule punition. C'est un décret de la Torah. Et la Rémeir, mais d'après, et donc c'est pour cela qu'il recevra seulement la punition des témoins au Mémim, mais pas la peine de flagellation. Et la Rémeir, mais d'après Rémeir, Maïtama, quelle est sa raison? C'est-à-dire, pour quelle raison reçoit-il deux punitions? Amaroula, Oula nous dit, Gama Mimoti Shemra. Lui, il apprend de quelqu'un qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme. Et il y a une loi qui nous dit que si quelqu'un, par exemple, immédiatement après s'être marié, et il pensait que sa femme était vierge, et le lendemain du mariage, il s'avère que sa femme n'est pas vierge. C'est-à-dire qu'en fait, elle a eu des relations avec quelqu'un entre le moment où il s'est fiancé et le moment où il s'est marié. Alors, il peut l'amener au tribunal et dire, voilà, je sais que ma femme a eu des relations entre l'époque du pendant l'époque des fiançailles. Et donc, il lui demande, il amène des témoins. Et donc, s'il réussit à amener des témoins que cette Nehara Ameurasa, cette jeune fille qui est fiancée, a eu des relations avec un autre homme que son fiancé, alors à ce moment-là, elle recevra sa punition. Mais, s'il n'arrive pas à amener des témoins sur cette chose-là, et donc en fait, tout ce qu'il dit, ce n'est qu'une mauvaise rumeur qu'il fait sortir sur sa femme, alors dans des conditions pareilles, cette personne est punie de deux choses. Premièrement, elle sera punie d'une peine de flagellation, et secondement, il sera puni d'une amende de 50 shekels de l'époque. Donc nous voyons que quelqu'un qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme peut recevoir deux punitions. Alors Rémeir apprend de là, de même chaque personne qui est passible de deux punitions, par exemple dans le cas où il a transgressé deux interdits, comme dans notre cas, alors il pourra oui recevoir ces deux punitions. Et c'est ce que la Gemara explique immédiatement. « Ma moti shemra loke omeshalem » de même que celui qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme et il est puni d'une peine de flagellation et paye une amende « Afko loke omeshalem » de même, tout le monde peut et être puni d'une peine de flagellation et à part cela devoir payer une peine financière. Vous m'avez refuté. « Ma le moti shemra sheken knas » on ne peut pas apprendre du moti shemra de celui qui fait sortir une mauvaise rumeur de sa femme car l'argent qu'il paye c'est une amende. Par contre les témoins zomemim ce n'est pas une amende. Donc ce sont deux cas différents. Donc peut-être que nous ne pouvons pas apprendre un de l'autre. La Gemara répond, d'après Rami, il peut oui apprendre. Pourquoi? Ça va là que Rabbi Akiva, lui, il pense comme Rabbi Akiva, d'Amar qui a dit, « Edim zomemim knasaou » que ce que les témoins zomemim payent lorsqu'ils ont voulu infliger une punition financière à quelqu'un, c'est une amende. Et donc, automatiquement, et celui qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme, et les témoins zomemim, les deux cas sont des amendes, et donc on peut oui apprendre l'un de l'autre. Igademane, il y en a qui enseignent, Léa de Oula, cet enseignement de Oula, qui a dit qu'on l'apprend du Motsi Shemra, à Détania, sur ce que nous avons appris dans une Braïta, c'est-à-dire pas à propos des discussions entre Rabbanan et Rémeir, mais à propos d'une autre discussion, ils disent que cet enseignement de Oula a été dit à propos d'une autre discussion. Détania, car nous avons enseigné dans une Braïta. L'ototirum imeno advoker. Il est dit dans le verset à propos du sacrifice de Pessah, que on doit le manger le soir même, et on ne doit pas en laisser jusqu'au matin. Ve'anotam imeno advoker. Et ce qui en reste jusqu'au matin, est-ce trop faux, on devra le brûler. Donc, l'Agma nous dit, « Ba katuv liten ase, achar lot ase » le verset est venu donner un commandement positif. Après le commandement négatif, l'Omar pour nous dire, « Shen lokin alav » qu'on ne sera pas puissible d'une peine de flagellation si on a transgressé le commandement négatif. C'est-à-dire, il y a un commandement négatif de ne pas en laisser jusqu'au matin. J'aurais pu penser que si quelqu'un transgresse ce commandement négatif, il sera puni de peine de flagellation. C'est pour cela que la Torah vient nous dire, celui qui a transgressé ce commandement négatif, c'est-à-dire il en a oui laissé, il devra le brûler. Et donc c'est ça la réparation du commandement négatif, et non pas une peine de flagellation. Dibri Rabbi Yehuda, ce sont là les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Akiva nous dit, l'homme inachemouzé, ce n'est pas la raison, c'est-à-dire la raison pour laquelle on n'est pas puni d'une peine de flagellation sur ce commandement-là, négatif-là, ce n'est pas comme l'a dit Rabbi Yehuda, car le verset a dit un commandement positif après le commandement négatif, mais parce que c'est un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active. Et nous avons une règle qui nous dit, et chaque commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active, on n'est pas passible dessus de peine de flagellation. Et puisque l'interdit de ne pas laisser de la viande jusqu'au matin, ça ne se transgresse pas de façon active, car on laisse de la viande, on ne, On ne fait rien pour laisser la viande, juste on est assis et on la laisse, on ne la mange pas. Donc ça s'appelle un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active, et c'est pour cela qu'on n'est pas passible de peine de flagellation sur ce commandement. Alors la Gemara va apprendre de là, Michlal, cela sous-entend, de Rabbi Yehuda Savar, que Rabbi Yehuda pense, lav shen bo ma'ase, lo kin alav, un commandement positif, négatif qui ne se transgresse pas de façon active, on est oui passible dessus d'une peine de flagellation. Car nous voyons que la raison de Rabbi Yehuda, qui nous dit pour quelle raison sur ce commandement négatif on n'est pas passible de peine de flagellation, c'est parce qu'il y a un commandement positif qui le suit. Ça sous-entend que s'il n'y avait pas de commandement positif qui le suivait, il aurait été oui passible de peine de flagellation. Or c'est un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active. Et malgré cela, Rabbi Yehuda nous dit qu'on aurait, oui, été passible d'une peine de flagellation. Donc ça va à l'encontre de la règle que nous avons appris d'habitude. Alors la Gemara demande, Minale, d'où apprend-il cette chose-là? Et là-dessus, nous vous disons l'enseignement que nous avons appris plus haut, Amaroula, où l'a dit, Gama Mimoti Shemra, Rabbi Yehuda l'a appris de celui qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme. Ma Moti Shemra Lafshen Boma Selokinalav, de même que celui qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme, c'est un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active. Car lui, que fait-il? Il ne fait que venir au tribunal et il ne fait que parler. Il dit, voilà, ma femme m'a trompé avant mon mariage, etc. Mais il ne fait aucun geste. Alors c'est un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active. Et malgré cela, il reçoit une peine de flagellation. Alors de là, nous apprenons « Afkol Afshen Bomase » de même, chaque commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active, « Lokin Alav » on pourra, oui, de recevoir dessus une peine de flagellation. L'agma va refuter cet enseignement. « Malé Moti Shemra, Sheken Lokom Meshalem » on peut refuter et dire que celui qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme, c'est un cas vraiment spécial. Et la preuve, c'est que, et il est puni d'une peine de flagellation, et il est puni d'une amende. Par contre, tous les autres commandements négatifs, on n'est puni que d'une peine de flagellation, on n'est pas puni d'amende. Alors peut-être on ne peut pas apprendre du Moti Shemra de quelqu'un qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme. Et donc, si c'est un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active, alors on ne sera pas puni de flagellation. Alors l'agma nous dit, et la Maresh Lakish, alors Resh Lakish a dit que Rabbi Yehuda a appris cette règle-là, Gamar, il a appris Medim Zomemim, des témoins Zomemim. C'est-à-dire, Maedim Zomemim Lavshen Boma, c'est de même que les témoins Zomemim, c'est un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active, car eux que font-ils? Ils viennent au tribunal et témoignent, ils ne font aucun geste, ils ne font que parler. C'est vrai qu'ils mentent, mais ce n'est aucun geste. Et malgré cela, Lokin Alav, ils ont oui passible de peine de flagellation. Avkol Lavshen Boma, c'est de même chaque commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active, Lokin Alav, on est passible dessus d'une peine de flagellation. C'est comme cela que Rabbi Yehuda l'a appris. Ogma avait refuté cet enseignement. Maledim Zomemim, Shekenen Trichematra, on ne peut apprendre des témoins Zomemim car c'est un cas spécial. Et la preuve, on n'a pas besoin de les avertir avant qu'ils ne transgressent l'interdit pour les punir. C'est-à-dire, il y a une règle qui nous dit à propos de chaque commandement négatif. Pour pouvoir administrer la punition par l'intermédiaire du tribunal, il faut que les témoins qui ont vu la personne qui a transgressé cet interdit, le préviennent avant qu'il ne le transgresse, sache que le geste que tu vas faire maintenant est interdit car tu vas transgresser tel et tel interdit et tu vas être passible de telle et telle punition. Mais à propos des témoins Zomemim, on n'a pas besoin de les prévenir avant qu'ils ne témoignent. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de leur dire, sachez que si vous témoignez à foi et que vous trouvez Zomemim, etc., vous serez passible de telle et telle punition. Donc, en fait, les témoins Zomemim, c'est un cas spécial, et donc nous ne pouvons pas apprendre tous les autres commandements négatifs qui sont dans la Torah, car dans tous les autres commandements négatifs, on a oui besoin de prévenir la personne qui transgresse le commandement avant qu'il ne le transgresse pour pouvoir le punir. Alors, on ne peut apprendre tous les autres commandements négatifs des témoins Zomemim. Alors, la Gemara répond, non, Moti Shemra Yochiar, celui qui a fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme prouvera. Pourquoi? Parce que nous voyons là-bas qu'on a oui besoin de le prévenir avant qu'il ne transgresse l'interdit. C'est-à-dire, on le préviendra, on lui dira. Sache que si ce que tu fais, ce n'est qu'une mauvaise rumeur, tu seras puni de telle et telle chose, etc. Donc nous voyons que qu'il est oui averti, et malgré cela, c'est un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active, et il est passible d'une peine de flagellation. Donc nous voyons que la raison pour laquelle une personne est passible d'une peine de flagellation lorsqu'il transgresse un commandement négatif qui ne pas de façon active, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été averti avant. C'est-à-dire, ce n'est pas cette particularité-là qui entraîne qu'il est passible d'une peine de flagellation. Mais bien sûr, nous pouvons poser la question comment pouvons-nous apprendre du Moti Shemra de quelqu'un qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme, car dans un cas pareil, il est puni et d'une peine de flagellation et d'une amende, et donc tous les autres interdits de la Torah où on n'est pas puni d'amende, peut-être qu'on ne sera pas puni de peine de flagellation. L'agma nous dit Bechazaradin, le raisonnement revient, c'est-à-dire, l'oreizé kérizé, la particularité de ce cas-ci ne ressemble pas à la particularité de ce cas-là, c'est-à-dire la particularité des témoins omémis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prévenus avant de transgresser l'interdit, ne ressemble pas à la particularité du motzi shemoa, de celui qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme, car lui n'a pas besoin d'être prévenu. Velo reizé kirizé est la particularité du motzi shemoa, de celui qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme, c'est-à-dire qu'il paye une amende, ne ressemble pas à la particularité des témoins omémim, car eux ne payent pas une amende avec leur peine de flagellation. Atad hacheveshe baem. Et le point commun qu'ils ont entre eux, c'est-à-dire entre les témoins omémim et celui qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme, la chaîne boma, c'est que c'est un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active, velokinalav, et qu'on est passif dessus d'une peine de flagellation. Et donc de là nous apprenons, afkol de même, tout la chaîne boma, c'est un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active, lokinalav, on sera aussi passif dessus de peine de flagellation. C'est-à-dire, nous n'apprenons pas que des témoins omémim ou que du motzi shemoa, de celui qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme, mais nous apprenons du point commun des deux cas. La Gemara avait refuté. Mal atad hashaveh shebaem sheken knas. Le point commun entre les témoins omémim et celui qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme, que c'est une amende. C'est-à-dire, si les témoins omémim ont, par exemple, témoigné qu'une personne est passible de payer telle et telle somme, et qu'après il s'avère zomémim, alors eux devront payer cette somme, mais c'est une amende. De même que celui qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme. Et donc, peut-être que c'est seulement dans un cas où il y a une amende à payer, alors on pourra être passible d'une peine de flagellation sur un commandement négatif qui ne se transgresse pas de façon active. Mais sinon, non. Alors, comment répond à l'okasha? Non, ça, c'est pas une question. Rabbi Yehuda, lo savar la ke Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda ne pense pas comme Rabbi Akiva. Et donc, il dit que ce que les témoins omémim payent, ce n'est pas une amende, mais c'est une obligation financière qu'ils ont envers l'accusé. Et donc, puisque c'est ainsi, il n'y a pas de point commun entre le motzi shemoa, celui qui fait sortir une mauvaise rumeur sur sa femme, et les edim omémim, car le motzi shemoa, c'est vrai que c'est une amende, mais les témoins omémim, ce n'est pas une amende. Agmaro veut refuter une autre question. Et la malata d'Ashavesh Baen, Shekeni Shbaen Tzadchamo, que le point commun des deux cas, c'est que chacun a une particularité sévère. C'est-à-dire, le motzi shemoa, il a une particularité qu'il doit payer une amende, et les dîmes omémim, les témoins omémim, une particularité qu'ils n'ont pas besoin d'être prévenus. Donc les deux cas, c'est quelque chose de sévère. Alors peut-être que c'est vrai, dans des commandements négatifs qui ne se transgressent pas de façon active, qui ont une sévérité quelconque, alors dans un cas pareil, on sera, oui, passible d'une peine de flagellation, mais dans les autres cas, on ne sera pas passible. Agmar refute, non, ça aussi. Rabbi Yehuda, tzatramor lo parir. Lui, Rabbi Yehuda, ne refute pas d'une particularité sévère. C'est-à-dire, s'ils ont une particularité commune sévère, alors on peut, oui, refuter l'étude. Mais si ce n'est pas une particularité commune, chacun une particularité à part, nous apprenons du point commun, et c'est tout. L'agma demande, alors bon, nous avons expliqué maintenant la discussion entre Rabbanan et Rabbi Meir. Alors l'agma demande maintenant, vers Rabbanan et les sages, « Haï lotane beracha et chaker » Ce verset sur lequel il est dit, et tu ne porteras pas contre ton ami un faux témoignage. Maïdar Shebe, qu'étudie-t-il avec? C'est étant donné qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir que celui qui transgresse ce verset est passible d'une peine de flagellation. Alors qu'est-ce que ce verset est venu nous apprendre? Alors Agmar nous répond, Aoumi Bayele Lazara les dîmes omémim. Ça, ça vient nous dire que c'est un avertissement contre les témoins omémim. C'est-à-dire, il y a une règle dans la Torah qui nous dit que chaque commandement négatif qui est écrit dans la Torah devra y être écrit deux fois. Première fois, la Torah avertit qu'il est interdit de transgresser ce commandement, et la seconde fois nous dit que celui qui a transgressé ce commandement est passible de telle et telle peine. Donc en fait, les sages utilisent ce verset pour nous dire c'est l'avertissement qu'il est interdit d'être Edim Zomémim. Et après cela, il est écrit dans les versets que celui qui est Edim Zomémim et qui a transgressé, oui, c'est interdit, est passible de la peine des témoins Zomémim. C'est pour cela qu'ils utilisent ce verset. Alors, je me demande si c'est ainsi, Vereb Meir. D'après Reb Meir, lui, il utilise ce verset pour autre chose, comme nous l'avons vu plus haut, pour nous dire que celui qui a un témoin zomémim est passible d'une peine de flagellation. Alors lui, d'où apprend-il Azara, l'édim zomémimale? D'où apprend-il l'avertissement qu'on n'a pas le droit d'être témoin zomémim? Azama Reb Meir, Reb Meir nous dit, Navkal, il apprend du verset qui est dit, Ve'anisharim, et les restants, Yishmeo ve'irao, verront et auront peur, écouteront et auront peur, Ve'lo yosifuod, et ne referont plus une telle chose. C'est-à-dire, après, il est dit, après tous les versets des témoins omémim, après qu'il est dit qu'on leur a infligé leur punition, alors il est dit que les restants, c'est-à-dire ceux qui ont vu la punition que l'on a infligée aux témoins omémim, entendront et auront peur à cause de la punition qu'il leur a été infligée, et donc ne se conduiront plus d'une telle façon. Donc nous voyons qu'il écrit dans ce verset qu'il est interdit de se conduire en tant que témoins au Mémim. Ça, c'est l'avertissement qui est écrit dans la Torah. Alors, comme on demande des rabbins et les sages, étant donné qu'eux apprennent l'avertissement des témoins au Mémim d'un autre verset, que font-ils avec ce verset? Haoumi Bayele, lui, il l'utilise.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.